Salut, c'est Yannick.
Salut, c'est Jimmy.
Bienvenue chez nous, l'endroit où on parle de techno, d'outils et d'usage numérique.
Bon, Yannick, ok, mais c'est quoi ces outils? C'est quoi cet usage? C'est quoi l'idée?
Ah, c'est à moi que tu demandes en fait.
Ah
Ok,
ouais.
parce que moi je suis un ancien. Je t'explique. L'idée, c'est d'amener une réflexion, comme on l'a quand on discute devant pas une bière, sur tout ce qui est outils du quotidien, outils numériques, technologies, bah, de la pop culture certainement. Et de montrer comment on peut les utiliser pour que ça nous serve correctement. Moi, je le vois comme ça. Je vois ça comment, toi?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer par la simplicité. C'est le numérique, c'est cool, mais le numérique, c'est faut que ça serve à quelque chose. Si c'est pour être emprisonné derrière, ça perd vachement d'utilité. Donc, c'est rentrer dans l'usage, comprendre les choses, pourquoi on va utiliser des réseaux, pourquoi on va utiliser tel outil pour gagner du temps, pour être plus libre en fait derrière.
Tu veux dire que tu vas nous parler de gestion de projet?
Pas tout de suite, pas forcément. Non, non, je vais plus parler de petites choses ou de ce qui se passe aussi dans l'actu, de pouvoir en débriefer. L'idée, c'est d'avoir du général, de parler de sujets qui nous intéressent et puis d'amener des petites capsules hyper pratiques, de parler d'outils qu'on a découverts. On a des tonnes, on passe notre temps tous les deux à échanger justement sur le petit outil qui nous change la vie. Donc ça, c'est le partager.
Ok, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on était en train d'enregistrer une réunion Zoom, en fait.
Ouais, c'est ça. Bon, en fait, c'est ce qu'on fait là, ouais.
On se voit en Zoom et on enregistre un podcast.
Yes.
Ce qui n'est pas vrai. Pas pour le premier, en tout cas. Donc, du coup, quand tu me parles d'outils, j'ai déjà une idée, on a déjà évoqué ça pas mal de fois, mais quand tu me parles d'outils qui sont faciles à utiliser, numériques, on est d'accord qu'on n'est pas en train de parler de ponceuse et de scie à ruban. On va parler de choses qui concernent qui, en fait? Toi, moi, des
Ben
professionnels
justement,
du graphisme, des professionnels...
ben moi ce qui me plaît dans ce truc-là, c'est de pouvoir faire le pont. C'est pouvoir faire le pont, c'est parler aux pros parce qu'on a toujours besoin d'optimiser son flow pour mieux bosser, gagner du temps, etc. Mais en fait, c'est en parler aussi au quotidien. Le numérique, il est là tout le temps, que ce soit dans nos vies professionnelles, nos vies familiales, vie de parents, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse vachement, et je sais que toi aussi, sur le lien entre les différentes générations, la manière dont on appréhende les choses, mieux se comprendre autour de ça aussi, ça fait partie du sujet en fait. C'est mieux appréhender le numérique.
Ok, je vais faire mon jeune padawan,
Vas-y,
parce
fais.
que dans toute ta phrase, t'as glissé un truc, c'est le flow.
Le flow.
Et moi, j'ai une petite idée de ce que c'est le flow, mais qu'est-ce que c'est le flow au final?
Alors, le flow, c'est tout ce que tu mets en place dans ton boulot pour que ça fonctionne bien. C'est l'accumulation des tâches. Et en fait, plus ce flow-là, il va être simple et mieux ça va couler et plus les tâches vont se réaliser facilement.
En fait, c'est l'organisation de la vie.
Ah oh, ouais.
Un peu de choses près.
En simple, ouais, c'est ça.
Ok, c'est là que ça m'intéresse aussi, c'est que du coup, quand on est en train de parler de flow,
Yes.
on est aussi en train de réfléchir à comment ces outils vont nous permettre d'intégrer le travail dans notre vie et comment on organise finalement le rythme de ce qu'on fait et de ce qu'on vit. C'est pas un podcast philosophique, mais quelque part. Si on y réfléchit bien, quand on s'organise par rapport à nos objectifs, on doit être capable d'arriver à construire quelque chose qui se dit, bah, dans ce flow-là, je me sens bien. Un truc un peu comme ça.
Ouais, c'est ça.
Jimmy a pris son air réjoui et là, je sens qu'il est à l'aise.
Il m'a compris le padawan. Pourtant, je t'ai mis des mots compliqués dans la phrase. Hein.
Ouais, c'est pour ça, je fais attention, je fais bien gaffe aux mots. Tu peux essayer d'en placer de temps en temps. Si tu m'en places de temps en temps, j'essaye de les débusquer et on les expliquera. Du coup, c'est un podcast où on va parler donc d'outils. Ça s'adresse à plein de gens. Des gens qui font du métier. Enfin, des gens qui font du métier, ça veut rien dire. Des gens qui travaillent, des gens qui ont des entreprises, des gens qui gèrent une maison, des gens qui gèrent des enfants. Mm-hmm. On va parler des enfants ?
Ouais, bien sûr.
Ouais, trop bien.
Pourquoi on comprend rien à ce qu'ils font, tu vois ?
Ah ouais, tiens, faudra que je te parle de TikTok. N'associez pas TikTok à « on comprend rien », mais je te parlerai de TikTok, peut-être pas aujourd'hui, mais il y a un jour, c'est promis, je te parlerai de TikTok. Donc, c'est l'idée, c'est aussi d'avoir quelque chose qui soit, allez, on va lâcher le mot, mais intergénérationnel. Je sais. C'est... Je sais, quand ce mot-là est lâché, on se pose des questions. L'idée, c'est aussi d'avoir quelque chose qui permette en fait, de comprendre ce que vivent les gens dans leurs usages, en fait. Enfin, dans ma vision des choses. Hein. Je pense qu'on est, on est assez raccord sur le sujet. Sinon, bah, on ne serait pas là. Ou alors si, on en parlerait, mais différemment.
Mais sinon, on va se fighter, c'est pas grave.
Ouais, on peut aussi. Il y a des fois où je pense qu'on ne sera pas d'accord. Donc on parlera régulièrement de ces sujets, on parlera régulièrement de sujets bien spécifiques et on prendra ça avec beaucoup de plaisir, de la bonne humeur, des gros rires et peut-être un petit peu
d'ASMR. Non. Non, ce podcast est sans ASMR, garanti.
Oh mince. Oh, j'y pensais aussi, je me suis dit, est-ce que je vais dire des gros mots ? Eh bien, finalement, je pense que ma vie de parent, elle m'a amené à en dire de moins en moins. J'ai appris à dire punaise, purée, et ça depuis quelques années. Il y a une question que je me pose, moi. Pourquoi t'as envie de faire du podcast, toi, Jimmy ?
Ah, putain, ça fait trop longtemps que j'ai envie d'en faire, parce que je trouve que c'est le média le plus... Enfin, je trouve ça hyper naturel, la façon dont c'est fait. C'est incroyablement riche, c'est-à-dire qu'il y a des podcasts sur absolument tout. Et puis, on n'est pas coincé devant un écran. C'est-à-dire que moi, j'écoute des podcasts dans la voiture, j'écoute des podcasts en baladant, n'importe quand. Donc, le podcast, il peut faire 4 heures, je m'en fous, en fait. Je le séquence et je l'écoute quand je veux. Donc, c'est vraiment un lieu de libre expression. Pour moi, c'est un peu la même révolution que les radios libres à l'époque, tu vois. Et je trouve ça incroyablement riche. Et chaque fois, j'ai envie de partager. Dès que je découvre un nouvel outil, je voudrais partager avec quelqu'un. Et maintenant que je bosse en indépendant, que j'ai pas moins de collègues à côté de moi, je peux pas me retourner en faisant « Hey, regarde ce que j'ai découvert !» Donc là, maintenant, j'ai envie de le faire découvrir à tout le monde. Donc ça me donne un espace de jeu. C'est quoi, toi, Yannick ?
Moi, en fait, j'écoute beaucoup de podcasts aussi, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, toute la journée. Les gens vont avoir l'impression qu'on a des journées d'oisifs, en fait. j'en écoute beaucoup la journée. Et quand on en est venu à parler de faire du podcast, ce qui s'est fait très vite, hein, finalement, par rapport au moment où on se l'est dit, j'avais aussi cette envie-là. Et je t'ai parlé d'un podcast que j'écoutais il y a très longtemps, qui était Boag World, sur les interfaces utilisateurs. Un truc en anglais des années 2000 et quelques, Paul Boag, avec un bon accent. Et je me suis rendu compte après que j'écoutais ce podcast-là, je me suis rendu compte aussi que j'écoutais un autre podcast, j'aime beaucoup les histoires, j'adore quand on me raconte des histoires. C'est peut-être pour ça que je développe une passion pour l'ASMR. c'est faux. J'écoutais des podcasts sur un site qui s'appelait, si je me souviens bien, Utopium, qui était suisse et où on avait des histoires autour du fantastique, qui était génial. Et j'écoute tout le temps des histoires. J'aime... c'est pas toujours les histoires les plus gaies, hein, parce que j'ai une petite passion pour les histoires de True Crime, là. J'aime bien les podcasts qui parlent de tout, j'aime quand on raconte des histoires, et finalement, dans ce que je fais au quotidien, c'est pas que je raconte des histoires, mais le but est toujours de trouver la bonne façon d'exprimer une idée pour que les gens le retiennent et l'intègrent et le comprennent pour leurs objectifs. Donc finalement, arrivé au moment où on se dit, tiens, on fait du podcast, c'est comme si on prenait le temps de raconter quelque chose aux gens qui leur soit utile, en fait. Donc, ouais, voilà. Moi, j'aime bien le podcast pour ça. Puis, ouais, c'est... Je sais que tu m'as parlé ce matin de tes promenades et de tes enregistrements de podcasts. Eh ben, je te conseille d'écouter Les Marchés Parlés de Bruno Muschio, alias Navo.
Ah, Navo, ouais.
Et lui faisait des marchés parlés quand il allait travailler à Canal+ le matin. Et ce sont des podcasts qui sont très intéressants. Et très récemment, d'ailleurs, il recommandait fort aux gens de faire des marchés parlés pour s'adresser aux autres.
Donc, le concept, c'est il marche.
Il parle.
Il parle. Ouais. Incroyable.
C'est un peu comme quand tu fais des vocaux pour laisser des vocaux à des amis, tu vois. C'est le même principe, sauf que tu le laisses à plein de gens que tu connais pas. Et c'est finalement du partage de réflexion, ce qui rejoindra forcément, je pense, une partie de ce qu'on fera ici, en fait, dans cette maison-là.
Bah, moi, c'est ce qui me plaît bien aussi, c'est ce côté, tu lances une bouteille à la mer, prends qui veut. Donc ça, c'est déjà, c'est cool. Et ce qui est bien, c'est que dans ce que j'aime dans tous ces podcasts, c'est que ça part sur des thèmes que je ne vais pas spécialement chercher. Ce n'est pas comme les podcasts hyper spécialisés, où vraiment, je vais donner du contenu sur comment gérer tel type d'éléments, comment faire de la pub sur Facebook, ou j'en sais rien, des choses hyper où je viens chercher que du contenu. Là, on va chercher de la discussion, de la réflexion et du partage, et un partage où on se dit bah ouais, moi aussi je me posais cette question finalement, et ouais. C'est intéressant d'avoir, bah, d'avoir une discussion entre amis, mais en différé, quoi, en décalé.
C'est comme ça que je le vois. Parfait. C'est aussi un podcast où il y aura de la surprise.
De la surprise.
Plein de surprises, Jimmy. Et c'est parti, Jimmy, pour l'actu du jour. De quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Eh ben, je parlais bien de la Pixel War, c'est-à-dire ouais, ce truc dingue qui s'est passé sur Reddit. Alors, on expliquera un peu de quoi il s'agit, mais c'est de l'art en ligne qui se construit en direct. C'est assez dingue. Alors, tu connais, toi ?
Ouais, c'est le truc où il fallait placer un petit pixel toutes les 5 minutes.
Ouais.
C'est ça ?
Ouais, ouais, c'est ça.
Ok, je suis au bon endroit.
C'est un pixel toutes les 5 minutes, donc on se dit, ouais, ça risque d'être un peu long. Ça s'est passé sur 3 jours.
Ouais.
Sur 3 jours, et un tableau qui est parti d'un million de pixels, qu'ils ont augmenté jusqu'à 4 millions de pixels. Ça a l'air qu'on dit comme ça, mais c'est, en fait, c'est monstrueux.
Ok, c'est comme une grosse photo haute résolution.
Ouais, et il faut vraiment aller voir hein, sur les réseaux... vous tapez Pixel War et voir à quoi ça ressemble, c'est absolument dingue. C'est une grosse
œuvre. C'est vrai que c'est beau.
Ouais, c'est vraiment super beau. Et puis, ce qui est hyper intéressant avec ce truc, c'est que c'est vraiment une photo de la culture à l'instant T, quoi. Ils en ont fait une en 2017, la première Pixel War a lieu en 2017. D'ailleurs, c'est pas une Pixel War, c'est devenu une Pixel War, mais ça n'est pas une à la base. C'est vraiment un tableau collaboratif où tous les internautes vont pouvoir mettre leurs pixels et créer quelque chose ensemble.
Voilà. Ouais, d'ailleurs, l'espace Reddit s'appelle Place.
Ouais, c'est ouais. Ça. C'est, okay. C'est cet espace-là, ouais. Et sauf que là, cette année, ça s'est emballé et c'est devenu ouais, une vraie guerre. C'était hallucinant à voir. Donc, voilà. Pour recontextualiser, Reddit, c'est un forum de communauté où il y a des tonnes et des tonnes de communautés qui sont dessus. Ça parle de plein de sujets. Le forum est monstrueux. Il n'est pas hyper développé en France, mais il fait mondialement, il fait 430 millions d'inscrits dessus, ce qui est le double de Twitter.
Ah ouais ?
Ouais, c'est énorme.
Ils sont méchants comme sur Twitter, les gens ?
Bon, ça peut, mais en tout cas c'est vraiment c'est une mine d'informations, c'est assez dingue, c'est tentaculaire. Et donc ils ont ouvert une place artistique où il y a un tableau et on remplit avec des pixels comme je disais tout à l'heure. Alors les règles du jeu, c'est ce que tu disais Yannick, c'est on a le droit à un pixel, en fait c'est de 5 à 20 minutes selon comment t'es inscrit, etc.
Ah oui,
voilà. Mais un pixel toutes les 5 minutes, autant dire qu'on fait pas grand chose. Sauf que quand c'est des communautés qui se mettent en place, ça crée vraiment des grandes œuvres. On avait droit à 16 couleurs, c'est tout. Il n'y a pas d'outil, il n'y a rien d'autre. On met un pixel et on choisit parmi 16 couleurs. Ils l'ont augmenté au fur et à mesure du temps, donc de 1 million de pixels à 4 millions de pixels. De 16 à 32 couleurs, ce qui a créé vraiment des trucs qui commencent à avoir de la gueule. C'est assez chouette.
C'est clair que ça a de la gueule.
Voilà. Après, pour se fédérer, pour être plus pratique, ils mettent des espèces de photos de fond, on va dire, avec les endroits où il faut cocher les pixels, et chacun vient mettre sa pierre à l'édifice, quoi.
Ok.
Donc ça, c'est quand tout va bien et tout se passe bien.
Au début, quoi.
Voilà, au début. Et ça crée des trucs vraiment très chouettes. Il y a des espaces qui se créent par pays, par communauté, etc. Et puis, à des moments, ça dérape un peu. Et là, c'est devenu, mais une guerre, vraiment une vraie guerre en ligne. Alors, une guerre de pixels, tout va bien. on va se calmer. Mais vraiment, et il y a vraiment eu un truc de Espagne contre la France. Espagne, États-Unis, même contre la France.
Ça s'est emballé, hein.
Ça s'est emballé, mais incroyablement. Et les communautés françaises, alors c'est beaucoup ceux qui font du Twitch, qui ont des grosses communautés.
Les streamers de jeux vidéo. Voilà, ouais. Qui sont bien intégrés à ça, ouais.
C'est ça. Mais du coup, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ce sont des communautés qui drainent de 50, 100, 200 000 personnes. Donc, quand il y a ne serait-ce que 50 000 personnes d'un coup qui se mettent à poser leurs pixels, c'est 50 000 pixels. C'est-à-dire que les tableaux, les œuvres se construisent sous nos yeux en temps réel. Et le truc, il était dingue. Il y a vraiment des vidéos résumées sur YouTube qu'il faut regarder. Et on voit des tableaux se créer et se détruire dans la seconde selon les attaques.
Ouais, il y a vraiment eu tout ce jeu en fait d'attaque-défense, ce qui fait qu'on a vite fait un raccourci en disant que c'est une pixel war. Le fait qu'on soit sur des streamers qui en même temps s'adressent à leur communauté pour les fédérer et du coup se voient entre eux en train de fédérer leur propre communauté dans chaque pays, je pense à augmenter ce niveau d'engagement national en fait. Et a fait un peu passer derrière cet esprit un peu créatif comme tu l'évoquais tout à l'heure. L'esprit créatif est resté parce que le but était de construire quelque chose dans l'esprit des gens qui soit beau. Mais effectivement, il y a eu une sorte de cristallisation sur la partie en bas à gauche de la fresque, ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas vu le reste de la fresque d'ailleurs. C'est vraiment lié à des relations en fait entre groupes de personnes, tout comme le travail créatif. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu nous expliques, c'est que c'est quelque chose de communautaire. Moi, je trouve ça stylé, quoi. Ouais.
Mais en fait, moi, ça m'a donné une prise de conscience. On entend parler des réseaux, du stream qui est assez puissant et qui prend de la place, mais on ne se rend pas compte de cette puissance de feu qui est absolument dingue. C'est-à-dire que...
T'as utilisé un terme de guerre.
Bah oui, mais là, on est dedans, quoi. Alors, c'est de la guerre, là, qui fait pas mal, et tant mieux. Mais on est arrivé sur des moments de vraie stratégie. La communauté française déclare avoir en gros gagné cette guerre. Moi, je pense qu'il y a un autre gagnant, mais ça, on en parlera plus tard. Mais dans leur combat contre les streamers espagnols, c'était assez dingue. Et ils se sont fédérés et ils ont vraiment créé des stratégies d'attaque et de défense qui étaient absolument dingues. C'est-à-dire que vu que chacun, on peut poser ses pixels à certains moments, il y a vraiment, l'organisation va faire que on peut prendre tout un espace d'un coup. Si on est dispersé et que chacun s'occupe d'un côté du tableau, ça va rien créer en fait, et on va se faire bouffer par les autres. Et là, il y avait toute une stratégie de... il y avait le coin en bas à gauche, si je ne me trompe pas, où il y avait un grand drapeau français. Ils ont mis un Zidane dessus, ils ont mis une tour Eiffel. Voilà, ils se plaçaient plein de choses là-dessus, juste au-dessus, le drapeau de l'Espagne. Donc là, les Espagnols commencent à dire « Oh, mais vous grignotez sur notre espace et vous ne nous en laissez pas assez. » Et là, commencent des négociations sur « Laissez-nous 25% de l'espace. » Enfin, des trucs absolument dingues. Et il y avait
quelque chose de... très similaire au monde, en fait.
Bah, ouais, ouais, mais c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est un risque. Mini-monde qui se crée. Ouais, ouais, risque, c'est ouais. ça.
C'est, allons envahir le Kamchatka. C'est
ça. Et il y avait des stratégies de, attention, allez pas détruire les œuvres là-bas, parce que sinon, on va se mettre la communauté à deux, ils vont venir, ils vont nous détruire. Mmh. Et si les communautés se fédèrent, on est foutu. Il n'y a aucune chance de remonter dessus.
Ouais, donc, totalement.
Tout le truc se passait là-dessus. Et on a vu donc des attaques, notamment des Espagnols ou des Américains, où le drapeau français commençait à disparaître et un autre tableau apparaissait dessus, un personnage qui apparaissait dessus. Il y avait un personnage à côté qui, à un moment, se met à pisser sur la tour Eiffel. Enfin, c'était surréaliste. Et ça se passe quasi en temps réel. On voit les pixels s'amonceler. Fait qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois le personnage qui... Ah ouais, ok. Ils nous ont attaqué de front, quoi.
C'est finalement comme si on était... C'est vraiment ce principe de... C'est vraiment ce principe de construction commune qui est intéressant. C'est-à-dire que d'être capable de fédérer un groupe de personnes autour d'un projet, c'est déjà ce que fait Reddit,
ouais.
Finalement. Reddit fédère un groupe de personnes sur un projet. Quand les streamers français s'y mettent, bon, eux particulièrement n'avaient pas compris au début la logique de la création. Donc ils étaient dans une logique de poser des pixels. Après ils se sont dit, oh, mais on peut faire de l'art, effectivement. Donc là, il y a eu un travail sur la créativité avec la technique du calque, comme tu l'évoquais. Mais quand on réfléchit à ça et qu'on le regarde, ça nous ramène à quelque chose qui est essentiel, en fait, qui est à plusieurs, on va plus loin si on se fédère et qu'on se met d'accord, finalement. Et ouais, ça tombe particulièrement bien dans l'esprit du truc, c'est de se dire, on est capable, en fait, si on fait des choses ensemble, d'arriver à quelque chose. Et pour moi, Internet, ça devrait servir à ça, entre autres, hein, en plus de la recherche pour se documenter. Mais ça devrait pouvoir servir, en fait, à ce truc-là qui dit, si on est ensemble, on est capable d'atteindre un objectif. Et c'est ces petits bouts qu'on va poser les uns au-dessus des autres qui vont faire que le tableau final sera joli, quoi.
Et ça parle d'intelligence collective aussi. C'est-à-dire dans intelligence collective, en fait, en gros, il y a les leaders qui sont les streamers et leur communauté. Mais les leaders sont obligés de se fédérer entre eux pour faire quelque chose. Ouais. Sinon, tout seul, leur communauté ne va pas suffire. Donc, c'est vraiment intéressant. Ils ont mis des stratégies en place de on va passer printemps, été, automne, hiver pour séquencer les poses de pixels. Et ils ont séparé ça par date de naissance.
Ouais.
Le truc, fallait le chercher, fallait le créer, quoi.
Ouais, il faut vraiment réfléchir vite, voilà. Et avoir une bonne stratégie, ouais.
Et donc, tout est timé, et c'est maintenant, le printemps, vous attaquez ou vous défendez, et là, d'un coup, paf, on voit le drapeau de France qui avait été complètement envahi et transformé, reprendre sa forme en quelques secondes.
Ouais.
Et c'est vraiment cette force-là. C'est, moi, je trouve intéressant de voir que derrière la vision qu'on a des streamers et de gens qui sont supposément, hein, j'entends, abrutis derrière leur écran à regarder des gens jouer aux jeux vidéo. Enfin, le nombre de fois où j'ai entendu ça, c'est quoi l'intérêt?
Ouais.
On regarde quelqu'un jouer aux jeux vidéo. Mais en fait, quand on prend le temps de se poser, c'est quasiment aussi intéressant que de regarder une série. Parce qu'il se passe des trucs... Quand
ça dépend de la série.
Ça dépend de la série, mais ça dépend du jeu de vidéo. Non, mais vraiment, on se laisse complètement capturer dessus parce que, en fait, c'est pas plus con que de regarder un match de foot ou un match de rugby ou peu importe. Ah, je vais me faire des ennemis. Mais
c'est bien.
Bien sûr, c'est bien. Mais c'est en fait, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde une performance, on regarde une stratégie, on regarde et on défend une équipe. Et en fait, quand on regarde du jeu vidéo en ligne. On regarde la performance de celui qui fait, on regarde ses stratégies et on se laisse prendre même par l'histoire, par ce qui se passe. Il y a du stress, il se passe plein de choses. Donc c'est intéressant de regarder ça de ce côté-là et de voir que en plus on n'est pas uniquement spectateur, c'est-à-dire que là il y a une vraie action. On se fédère, on choisit le groupe dans lequel on est, on se fédère et on crée quelque chose, quoi.
Ouais, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice de pixels, du coup.
Exactement.
Et c'est intéressant. Alors, Attention à la digression, mais c'est pas grave. C'est intéressant d'aborder cette réflexion sur le jeu vidéo et sur le streaming et sur le regard que peuvent avoir les gens sur le sujet. Et t'as évoqué quelque chose qui est de l'ordre de raconter des histoires. Mm-hmm. Si on réfléchit à ce terme de raconter des histoires et qu'on le ramène dans notre quotidien, finalement... tout ce qu'on est en train de faire raconte une histoire, en fait. Et le truc, c'est que très souvent, les gens qui ont... Je vais pas juger les gens, mais quand même un petit peu. Les gens qui regardent quelqu'un qui joue aux jeux vidéo et qui se disent « il y a rien d'intéressant là-dedans », c'est juste des gens qui n'ont pas pris le temps de s'intéresser à l'histoire. C'est-à-dire que si on rentre dans l'histoire, quand bien même on aurait raté le début... si on rentre dans l'histoire, qu'on s'autorise à s'affranchir en fait d'un regard qui est jugeant, finalement, c'est mieux dans le micro. Si on s'affranchit d'un regard qui est jugeant, on est capable à ce moment-là de se concentrer sur. Mais c'est quoi le plaisir là, du coup ? J'apprécie. La vue est belle, le paysage est beau, ça me promène. Moi, je sais que j'ai découvert Zelda comme ça. Hein. J'avais une console, c'est un copain qui a joué à Zelda chez moi, quoi. Donc, il m'a pépouse sur le canapé, quoi. Alors, regardez. Merci, Paul. Donc, du coup, quand on a cette capacité à lâcher prise, je vais dire, tiens, je vais le lâcher, et à dire, bon, je me laisse embarquer. Il y a une expression, hein, je sais pas, le truc d'incrédulité, là, je le retrouve jamais, mais je te le retrouverai pour la prochaine fois. Quand on est capable de basculer là-dedans, alors on prend le temps d'apprécier ce qui est là. Et effectivement, pour qui ne l'a pas fait, je vous le conseille, regardez des gens sur Twitch. Regardez des gens sur Twitch qui jouent aux jeux vidéo, qui jouent de la batterie, qui font du tricot, qui discutent, tout simplement. Just chatting. Il y a des gens qui font juste ça. Et c'est juste du temps donné avec d'autres gens pour discuter de quelque chose. Et ça nous ramène encore à autre chose par-dessus ça, c'est... et c'est plein d'antennes, hein, on peut se noter plein de sujets. Ça nous ramène à quelque chose qui est... quand je suis sur mon téléphone, devant mon jeu, devant mon ordinateur, et que j'envoie un message à quelqu'un d'autre, dans ma messagerie, dans un chat ou autre, bah, de l'autre côté, il y a quelqu'un. Et du coup, là, on se le prend un peu en pleine face gentiment quand ils font ça. C'est que y a quelqu'un qui rigole, qui crie, qui gueule dans son micro et qui dit « Allez, la France, on y va !» et qui dit à tout le monde « Posez un pixel !» Et les gens s'embarquent dans l'aventure et disent « Ok, je vais pas dormir. Ok, je vais être en retard demain matin au boulot. Ok, je vais contribuer à ça. » Et quand ils arrivent au bout, guerre ou pas guerre, gagner... ou pas gagner, mais c'est mieux de la gagner. Bah ouais. Hein. Et ben du coup, ils en tirent une certaine satisfaction en se disant « Waouh, on a fait un truc qui était quand même vache de classe, quoi. »
Bah, ils ont fait un truc de dingue et ils ont fait un petit moment d'histoire. Alors, peut-être pas de la grande histoire, mais toujours est-il, c'est comme celle de 2017, quand on regarde, on a un tableau à l'instant T de ce qu'était la culture à ce moment-là, cette culture vidéo, ouais. Jeux vidéo, etc.
T'es allé voir celle de 2017, toi ouais, ouais. T'es curieux, toi, c'est bien. Ouais. J'irai la voir.
Non, mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Et c'est... mais ça, enfin, t'en fais des NFT, mais c'est un truc qui vaut...
Ah, arrête avec ça, non.
On va pas rentrer là-dedans. Non, mais là, on touche à des sujets qui vont super loin. Quand tu parlais, Yannick, il y avait un truc que je trouvais hyper intéressant, c'est que...
Il a glissé NFT.
Ouais, j'étais obligé, c'était mon mot secret.
Mais on en reparlera, ouais. Il y a déjà des gens qui le vendent. Hein.
Yes. Oh, bah ouais, quand même. Non, moi, je parlais vachement intergénérationnel, c'est se comprendre. C'est-à-dire que on l'a dit dans l'introduction, c'est quelque chose sur lequel on reviendra pas là maintenant parce que on peut partir pour 2 heures de plus, mais c'est oui. Comprendre ce qui se joue derrière. Effectivement, regarder quelqu'un jouer du jeu vidéo, bon, le forum Reddit, ouais, ok, ou YouTube, ouais, super.
Ouais, puis c'est moche un forum Reddit. Hein.
Ouais, c'est moche, mais par contre, c'est une mine d'informations, mais phénoménale, incroyable. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé ce premier cap de qu'est-ce que c'est que ce truc et c'est quoi l'intérêt, enfin, si c'est pour parler jeux vidéo toute la journée, merci. Et en fait, quand on va chercher derrière, c'est d'une puissance phénoménale. C'est...
Et pourquoi c'est puissant ? Parce qu'il y a des gens.
Ouais. Mais voilà, mais c'est la déconnexion n'est pas là, en fait. Sur, on dit souvent, ouais, les jeunes sont déconnectés. Ils se voient pas en vrai. Si, si, ils se voient en vrai, c'est pas un souci. Mais par contre, ils ont une vie numérique qui est incroyablement puissante et sur des choses qui, qu'on touche à peine du doigt, quoi, qu'on n'a même pas imaginé.
Ouais, totalement. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Ah, on va pouvoir parler plein de trucs ensemble,
oh,
dis donc,
oui,
c'est la fête, ça.
Ah, pour boucler juste sur le sujet, donc la France a gagné parce qu'ils ont gardé leur drapeau, l'Espagne s'est beaucoup battue. Alors, je donne ça du point de vue français, hein, parce que c'est les streamers français, pas espagnols, que j'ai regardé. les
vrai,
Espagnols étaient beaucoup
Espagnols.
Dans l'attaque, donc il y a peu de construction de leur part, soit, et en fait, on s'en fout. Ce qui est génial, c'est que ceux qui ont gagné, il y a eu la communauté des BTS, qui sont un groupe de K-pop qui est incroyablement puissante sur le net, c'est un truc absolument
ouais,
dingue.
La
ça
BTS
aussi,
Army.
Ça pourrait être un sujet à part entière, c'est complètement fou. Il y avait les nihilistes, on va dire, je vais appeler ça les nihilistes, qui est une espèce d'entité noire qui a traversé le tableau. C'est-à-dire que si on fait un time-lapse du tableau, mm-hmm. il y a une espèce de nuage noir qui arrive et qui détruit tout sur son passage et qui traverse le tableau tout du long. Alors, ça reconstruit derrière,
ouais.
mais c'est vraiment un groupe qui est là juste pour détruire et pour poser des pixels noirs.
Okay.
Et c'est hyper beau à voir, en fait, quand on les voit passer. Il y a le drapeau de l'Ukraine qui, d'un coup, a traversé. Alors, ça devait pas être encore sur les 4 millions de pixels, mais ça a traversé, le drapeau de l'Ukraine a traversé tout le tableau, de bout en bout, sur le centre. Et c'est pas que des Ukrainiens, c'est-à-dire que tout le monde s'y est mis, quoi.
J'aime beaucoup la réflexion que tu as eue sur le... C'était pas encore sur les 4 millions de pixels. J'ai vu Jimmy réfléchir à la distance qu'il faut parcourir sur 1 million de pixels ou plutôt sur 4 millions. Donc, ce que Jimmy fait, ça, il compte les pixels. Alors, il dit... Et, attends, c'était pas le grand. Hein. Ça a pas fait beaucoup de route. Hein. Ça n'a fait qu'un million de pixels. Mais c'est déjà quand même pas mal. Ça fait des bornes. Hein. Ça fait de l'essence. Hein.
Ouais,
non, mais je l'ai vu. Tu l'as fait comme ça. T'as fait, alors, attends, non, c'était pas le 4 millions. C'était le 1 million.
Toujours est-il que c'était beau de voir ce drapeau-là traverser l'écran et puis disparaître derrière, quoi, de garder juste une petite place. Et en fait, les vrais vainqueurs, c'est la team Among Us. Among Us, qui est un jeu vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder.
Tout le monde connaît Among Us.
C'est un phénomène assez dingue. On en parlera peut-être à l'occasion de ces jours. Et en fait, c'est des petits bonhommes qui ressemblent un peu à des barbapapas en combinaison.
Ouais, c'est si une bonne veut. Définition
voilà.
du bonhomme Among Us.
Et en fait, ils sont absolument partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage Among Us au milieu qui est la statue de l'empereur. Non, non, ils sont partout. Dans toutes les œuvres, sur tout le tableau, il y a des petits personnages dans toutes les ombres, dans toutes les œuvres, ils se sont incrustés absolument partout. Et vu qu'ils étaient extrêmement discrets, ils ont envahi l'intégralité du tableau sans que personne les vire, en fait. Parce qu'ils ne se sont pas aperçus qu'ils étaient réellement là.
Tranquille.
Et pour moi, c'est les vrais vainqueurs de cette guerre. C'est juste... Il y a peut-être qu'il y a une leçon en tirant.
Ce qui est marrant, parce que c'est du coup tout le principe de Among Us, puisque dans Among Us, tu as un traître et tu ne sais pas qui c'est. Et du coup, tu es toujours en train de te dire c'est qui. Il est où ? Il est où ? Et du coup, il n'est pas caché, mais tu ne sais pas qui c'est.
Je tiens à dire que je me désolidarise du fait de traiter la communauté de mangueuses de traître.
Dans la communauté, il y a un traître.
Ok.
Ok, bah j'irai voir ça. Ça me ferait bien plaisir, ouais. C'est okay. Cool. Bon, écoute, on a bien causé de ce place Pixel War, vive la France, sourcil de Zidane.
Ah oui, oui.
Ah ouais, quand même. C'était pas un mot-clé, mais sourcil de Zidane, quand même.
Sourcil de Zidane.
Donc, c'est cool.
On passe à la suite ?
Ouais, on passe à la suite. Tout de suite, la suite, comme disait l'autre. Je te clappe.
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil pratique, comme on va essayer de le faire régulièrement. Et là, c'est l'outil que je propose le plus souvent. C'est extrêmement simple, c'est trois fois rien, ça paraît très très tout bête comme outil, et à chaque fois les gens ils me font « Oh mais c'est trop bien,
c'est
ça va me sauver la vie !» Bah non, ça t'en parlera plus tard.
Merde.
Non, 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 c'est encore plus bête que ça, c'est un outil de gestion de PDF, tout bêtement.
Oh.
Et en fait, moi j'ai toute la suite Adobe, toi tu l'as aussi, je bosse beaucoup avec des gens qui ont la suite Adobe, donc on a Acrobat, normalement on n'a pas besoin de s'embêter avec un outil de gestion de PDF. Et pourtant, c'est un des outils que j'utilise le plus souvent, parce que en fait c'est plus rapide pour moi de l'utiliser, notamment pour une fonctionnalité spécifique dont je parlerai, que je trouve beaucoup plus efficace là-dessus. Et puis après, ça sert à tous les gens, mais que ce soit dans les bureaux ou à la maison, dès qu'on a à gérer un PDF, ben, c'est toujours un peu l'enfer. Et
celui-là, c'est toujours chiant, les PDF.
Oh là là, c'est, ouais. Et celui-là, ben, en fait, c'est simplissime et ça fait tout ce qu'il y a à faire, voire même des trucs incroyablement puissants. Ça s'appelle I Love PDF.
J'ai cru que ça s'appelait simplissime. Comme le livre. Je me suis dit, waouh, ils ont pris le même nom que le livre. Mais non.
ilovepdf.com. Donc, c'est un outil en ligne, tout simplement. Ouais. Alors, ça existe en application, mais alors, sur le Mac, par exemple, j'ai un Mac et l'application est vachement plus limitée. Je préfère vraiment utiliser l'outil en ligne.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Ça existe sur téléphone ?
Ouais.
En appli sur téléphone direct ?
En appli téléphone, ouais. Et donc, ça permet de faire quoi ? Ben en fait, tout ce dont on a besoin pour un PDF. C'est-à-dire que quand j'ai un PDF et que je veux extraire une page, je peux le faire. Si je veux le séparer en deux, je peux le faire dessus. Si je veux assembler deux PDF ensemble, je peux le faire. Je peux transformer mon PDF en Word, en PowerPoint, en Excel. Ça marche plutôt pas mal. C'est pas magique non plus. Mais globalement, franchement, la transformation, elle est plutôt bien. Et on peut faire l'inverse, transformer son Word en PDF, son PowerPoint en PDF. C'est moins intéressant puisqu'on le fait en natif dans les différentes applications.
Oh, ça, ça dépend encore.
Ça dépend.
Oh ouais, non, si fichier enregistré sous PDF,
ouais, maintenant globalement, ça marche partout. Pas mal. Ouais. Mais dans l'autre sens, le PDF en Word, c'est vraiment très pratique pour récupérer du texte, des éléments, voilà, pour partir d'une base pour travailler. Okay. On peut éditer, il y a un outil pour éditer, qui est assez nouveau sur le site, pour éditer les PDF. Donc, on va pouvoir faire des modifications, modifier du texte dans le PDF, des choses comme ça. On peut transformer PDF en JPEG aussi, ou JPEG en PDF. Donc, on va prendre plusieurs JPEG pour faire un PDF, ça c'est pratique aussi.
Ça, ça me fait penser à l'exemple de la vie qui est chiant. C'est... J'ai mangé un jingle. Non, tu sais, ça c'est toujours le moment où dans ta vie, on te dit... Monsieur, envoyez-nous une photocopie recto verso de votre carte d'identité.
Ah, là, c'est ça.
Et quand tu fais ta photo recto verso et que tu te l'envoies sur l'ordinateur, que t'as bien galéré, parce que tes images, elles font des millions de pixels. Souviens-toi, Jimmy, les pixels. Tes images font des millions de pixels. Tu les envoies sur ton ordinateur, tu les récupères. Et quand t'envoies, ça te dit, je n'accepte que les PDF.
Et là, tu le maudis.
Et tu te dis, ah, bah, merde, je fais quoi?
Et bah, tu fais, oh, si j'avais un outil qui pouvait me permettre de faire ça en ligne, oh, je serais tellement plus heureux.
Alors, du coup, tu fais ton PDF.
Oui.
Et tu fais un PDF qui fait 10 mégas.
Attends, mais ça, c'est ce que je garde pour la fin, pour la bonne bouche.
T'as une solution pour ça.
Ok, tu m'as spoilé. Okay. je viens direct te demander dessus, puis je finirai le reste après. Ouais, il y a la fonctionnalité compresser le PDF. Alors, c'est très simple, hein. On télécharge le PDF, il y a trois taux de compression. Celui qui abîme le moins le PDF, un truc médium, et puis un truc qui le défonce bien en termes d'image, mais qui fait des fichiers très très légers. On va se dire, ben, pour ceux qui ont Acrobat, ben, Acrobat le fait très bien. Non, Acrobat le fait, mais pas très bien en fait. Justement, c'est toujours galère de compresser.
J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais me dire que ça le faisait très bien. Très bien.
Ben, quand on maîtrise les réglages, on arrive à faire des trucs, mais c'est jamais optimum. Alors que là, les compressions sont hallucinantes. Elles sont vraiment, vraiment bonnes et avec des super résultats et c'est rapide à faire. Donc moi, dès que j'ai un PDF à compresser pour envoyer par mail ou des choses comme ça, j'utilise I Love PDF plutôt qu'Acrobat, c'est ce qui est dingue. Hein. Mon métier, c'est quand même d'utiliser tous ces logiciels à Adobe et pourtant, je trouve ce site plus pratique. Donc je l'utilise souvent. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le truc que j'utilise le plus souvent, c'est vraiment ça, quoi. Après, mais ça va encore plus loin. Hein. On peut faire des rotations de PDF, HTML to PDF, Unlock PDF, Protect PDF. On peut organiser les pages dans le PDF, etc., etc., etc.
Ça se fait facilement, ça ?
Mais c'est incroyablement simple. C'est-à-dire que je prends mon PDF, je le glisse et dépose dans la fenêtre ou aller chercher dans mon dossier.
OK.
Et go. Ça télécharge. Le truc, c'est gratuit. Ouais. Il y a trois niveaux. C'est-à-dire que c'est complètement gratuit. C'est-à-dire que j'ouvre, j'utilise le truc, basta. Après, je peux m'inscrire et l'utiliser. L'inscription me permet juste d'avoir accès à plus à du traitement en lot.
Ouais.
À pouvoir traiter plus de PDF à la fois ou okay. de choses comme ça. Voilà. Ouais. Et il y a une version payante. Alors, je dois avouer que pour arriver à la version payante, il faut vraiment avoir un truc industriel à faire parce que, en fait, ça ne fait qu'augmenter le nombre d'éléments qu'on peut traiter en lot.
Est-ce que ça, y aurait pas de la pub que ça enlève, le fait de payer ?
J'ai même pas fait gaffe qu'il y ait de la pub.
Enfin, ouais, si t'en as pas vu, c'est qu'il y en a pas beaucoup.
Non, vraiment. Okay. Non, il n'y a pas des fenêtres, des pop-up de pub. Non, le truc est super clean. Il est pas très beau, mais alors hyper bien foutu.
Okay.
C'est vraiment hyper simple. Donc voilà, gratuit, facile à utiliser. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand on va tout en bas d'I Love PDF, on a un lien vers I Love Image.
Ah.
Donc, pas Image, mais IMG. I Love IMG.
J'allais dire, il y a un lien vers Adobe. J'ai imaginé tout de suite un lien vers Adobe, je ne sais pas pourquoi.
Adobe qui fait, nos outils sont pas pratiques, on vous a fait un site. Bah, non.
Petit conseil pour les gens d'Adobe, rachetez I Love PDF.
Bah non, ils vont mettre en payant derrière. Non, vraiment, c'est génial. Ouais, c'est et donc, on peut bifurquer sur I Love Image. Et I Love Image, même principe, c'est-à-dire qu'on peut compresser ces images, retailler ces images, les recadrer, changer leur taille globale. On n'agrandit jamais une image, je tiens à le dire.
On n'agrandit jamais une image ?
Mais non, on n'agrandit jamais une image, c'est le graphiste qui parle. Alors, on va pouvoir parler, oui. Prochain sujet, des algorithmes, et maintenant on peut agrandir les images et ça se passe plutôt bien.
Ouais.
Dans l'absolu, warning, ouais c'est vrai.
Punaise, on va parler toute l'année
Donc voilà, il y a de l'édition de photos dedans, enfin ça fait plein de choses, c'est dingue. Donc ayez la curiosité d'aller voir, ça coûte rien et c'est hyper facile à utiliser.
Alors moi je connais ça, I Love IMG, parce que je kiffe I Love IMG. Et c'est toi qui m'as fait découvrir I Love PDF.
Ouais, je sais.
L'autre, stylé. J'utilise quand même toujours Adobe, mais pas pour gérer mes PDF. Et effectivement, ouais, dernière fois que j'ai eu un PDF à compresser, pour ceux à qui ça parle, j'ai transformé un PDF de 5 mégas en truc de 700 kilos sans perte de qualité, quoi.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça dingo. Parce qu'effectivement, pour utiliser Adobe Acrobat, dans la fonctionnalité de compression, qui doit être une fonction des plus simples du monde, j'ai l'impression qu'il faut un diplôme d'ingénieur, en fait. Ça me parle de radiant, c'est même pas de... Ils n'utilisent même pas le même mot pour dire taux de compression. Donc, je comprends pas. Ça parle de trucs cubiques. Je pense que c'est trop poussé. Ils sont allés trop loin. Ok, bah c'est cool, c'est un bon outil, ça. I Love PDF, et tu nous as étendu ça sur I Love IMG. On pourra retrouver ça quelque part, on trouvera bien un endroit où on posera un lien pour que les gens trouvent ça.
Dans les commentaires.
Ah bah oui, les commentaires. Il y aura des commentaires. Super, et on aura le droit régulièrement à un petit outil comme ça ?
Ah bah, le but du jeu, c'est qu'à chaque podcast, on ait un outil. Les attendus vraiment que nous avons posés sur ce podcast sont la simplicité. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'amener un max d'outils pratiques, de parler de ça. Donc,
ça marche.
Dans les usages.
Et on fera bien attention aussi à rappeler à quoi ça peut servir super concrètement, en fait.
Restez concret.
Ouais, exactement.
C'est un peu funky.
Restez concret. Oh, toi, tu viens de poser deux baselines. Restez concret, simple et funky. Ouh. Groupe belge. Eh ben, écoute, c'est cool. Moi, je suis content pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça ? T'es content, toi ?
Ah ouais, je suis trop.
Je suis un enfant et je fais de l'ASMR.
Non, ça c'est interdit.
Non, on fera pas d'ASMR, c'est promis, il y en aura pas. Je vais développer un podcast parallèle dédié à l'ASMR. On va continuer à parler de technologie, d'usage et d'outils numériques pratiques et au quotidien. Tu veux rajouter quelque chose, Jimmy,
non,
pour aujourd'hui ?
C'était notre bêta et franchement, C'était trop cool.
On n'est pas si bêta que ça.
Ouais.
Voilà. Au pays du jeu de mots podcast. Allez, bonne journée tout le monde. Ciao.
À la prochaine.